Donc, je commence avec une citation du père Henri de Lubac dans son premier magistral ouvrage qui s'appelle « Catholicisme ». C'est un ouvrage qui n'est pas interdit de lire ou de relire. C'était publié avant la Seconde Guerre mondiale. Et le sous-titre, c'est « Les aspects sociaux du dogme ». Autrement dit, le père de Lubac, jésuite, à une époque où peut-être on avait tendance à oublier cela, insiste sur la dimension sociale de notre foi. Qu'est-ce que ça veut dire, dimension sociale? Ça veut dire prendre en compte le fait que nous ne sommes pas qu'une somme d'individus, mais que nous avons un lien très étroit les uns aux autres dans le mystère de l'Église, et que donc toute notre foi est connotée par cette dimension sociale. Voilà. Mais toutes les dimensions du dogme, c'est pour ça qu'il passe en revue un peu toute notre foi, et c'est merveilleusement écrit dans une langue très belle. Qui plus est, c'est pétri de citations des pères de l'Église, donc ça ne nuit pas au propos. Voilà, je lis ce que je trouve au chapitre 4, intitulé « Vie éternelle ». « Le ciel, dit le père de Lubac, a toujours été conçu dans la tradition chrétienne sous l'analogie d'une cité. » Et en note de bas de page, il renvoie, comme vous vous en doutez, à la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, à la lettre aux Hébreux, chapitre 13, à l'Apocalypse, chapitre 3, 20, 21, et à d'autres auteurs tirés de la tradition patristique. Cité harmonieuse, d'où le titre de cette petite communication, où tous règnent avec le grand roi. Cité de Dieu, cité des élus. Les saints ils vivent en société, ils s'y réjouissent en commun et tirent leur joie de cette communauté même. Cité compacte comme une seule maison, société resserrée comme une famille unique, blottie sous un même toit, mais en même temps dilatée à l'extrême, car elle contient en ses murs toute la créature spirituelle. Elle est donc, dans sa perfection, la Catholica Societas, la société catholique. C'est une citation du pape Zosime. Voilà, un mot d'introduction, donc, que j'emprunte au père de Lubac dans son ouvrage magistral « Catholicisme ». Mon propos sera articulé en quatre temps. Dans un premier temps, je voudrais partir, un peu à l'inverse de ce que je viens de dire, du mystère de notre solitude et de notre individualité face à la mort. Dans un second temps, je m'inquiéterai d'une seule question qui peut sembler complètement annexe, sans trop d'importance, et pourtant qui nous dit quelque chose d'important, qui est le soin que l'on apporte aux défunts. Il y a une tradition chrétienne en la matière. Dans un troisième temps, je m'interrogerai sur le lien qui existe entre la résurrection du Christ et la nôtre. Et enfin, dans un quatrième temps, j'espère pouvoir déployer cette dimension sociale de notre résurrection qui est au cœur donc de ce sujet. Voilà, donc, premier temps, face à la mort, la conception typiquement chrétienne de l'anthropologie nous fait assez aisément comprendre pourquoi nous éprouvons tous, et il en sera toujours ainsi, une répugnance réelle est tout à fait fondée face au mystère de la mort. En effet, l'anthropologie chrétienne nous apprend que notre corps n'est pas une prison, que notre corps n'est pas un vêtement dont il serait facile de se débarrasser ou de changer. Ceci, vous le savez, appartient à une tradition dans l'histoire de la pensée, qui est la tradition platonicienne, qui insiste sur un certain dualisme, donc une opposition entre l'âme et le corps, qu'il ne faut pas confondre avec la dualité chrétienne qui, elle aussi, reconnaît l'existence d'une âme et d'un corps. Vous n'aurez pas trop de mal à me montrer que dans le Nouveau Testament, il y a pourtant des textes qui parlent d'une tente, qui parlent d'un vêtement. Mais nous sommes ici dans le registre de la métaphore et Saint Paul s'en fait le champion. Autant d'expressions qui veulent souligner qu'une transformation est nécessaire entre la vie présente et la vie à venir. Mais la mort considérée naturellement est un événement qui nous lacère. La mort n'est pas désirable en soi. Elle n'est pas une réalité que l'on pourrait aborder tranquillement. Nous savons tous que la répugnance qui nous habite, la répugnance qu'elle suscite en nous, dit bien que cette mort n'était pas inscrite dans le projet de Dieu. On va y revenir. Dès lors, nous n'avons pas à nous émouvoir si, confrontés à la mort d'un proche, nous sommes profondément atteints. Et là, nous tournons nos regards, spontanément bien sûr, vers le Christ. Vers le Christ à Gethsémani. Jésus, peu de temps après, nous le savons, a fait une expérience qui est celle de la plus profonde solitude humaine. Et j'insiste bien sur le mot de solitude. Le Christ a vécu la solitude humaine, celle que l'on ressent au moment de la mort. Et les uns et les autres, nous mourons. Il est à souhaiter que nous mourions entourés par nos proches, par les gens que nous aimons, notre famille, nos amis, mais il n'empêche qu'il y aura ce moment de solitude. C'est le moment où finalement, le seul recours qui nous reste, c'est le Seigneur. Et c'est dans cette logique qu'il faut entendre les paroles que prononce Jésus sur la croix. Vous retrouvez ça en Marc 15. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cri de Jésus qu'il ne faut pas interpréter d'abord comme un cri de désespoir, mais comme une prière que Jésus adresse à son Père, qui exprime sa confiance inébranlable, y compris au moment de la plus profonde nécessité. Vous le savez, ce sont les premiers mots du psaume 22. Il est évident pour Saint Marc, comme pour les lecteurs de Saint Marc, que même si Jésus n'a pas récité ce psaume en entier au moment de sa mort, ce premier verset devait évoquer la tonalité du psaume, et cette tonalité, c'est une grande confiance en Dieu qui écoute la prière qui lui est adressée. Mais saint Paul atteste à sa façon ce rejet naturel de la mort qui le pousse à désirer avec ses contemporains que Jésus revienne au plus vite. Nous en avons trace dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, je le cite. « Oui, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés. Nous ne voudrions pas, en effet, nous dévêtir, mais nous revêtir par-dessus, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » Voilà, le désir qu'exprime Paul ici, et qui était celui de ses contemporains, c'est que le Christ revienne, et au fond, qu'il bénéficie du retour du Christ, alors qu'ils sont encore vivants sur cette terre, sans avoir à passer par la mort. Alors, si l'on recherche, bien sûr, les raisons de ces sentiments de solitude et de répugnance face à la mort, on ne peut qu'insister pour dire que la mort nous scinde intrinsèquement. Notre personne n'est pas qu'une âme, mais une âme et un corps, comme le dit le Concile Vatican II. Dès lors, la mort nous affecte tout entier, même si l'âme survit après la mort. Cette dimension d'absurdité que revêt la mort trouve ici une nouvelle explication. En effet, dans l'ordre historique dans lequel nous vivons, je l'évoquais à l'instant, cette mort existe contre la volonté de Dieu. Et là, il faut être très clair là-dessus. Nous l'avons entendu il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était dimanche, dans la liturgie, dans la première lecture de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Sagesse 1, Sagesse 2 dit « Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité ». Vous retrouveriez la même idée en Romains 5. Et Gaudium et Spes 18 nous enseigne que l'homme aurait été soustrait à cette mort corporelle s'il n'avait pas péché. Voilà. Le même saint Paul, toujours à être aux Romains, dit clairement au chapitre 6 que le salaire du péché, c'est la mort. Dès lors, si on comprend bien ce sentiment de solitude et de répugnance face à la mort, on peut admettre que nous souffrions profondément de la mort des personnes que nous aimons. Et nous n'avons pas à nous inquiéter de cela. Jésus pleura à la mort de son ami Lazare. Et les Juifs, bien que n'entrant pas dans la profondeur de l'âme de Jésus, comprirent à cause de ses pleurs le grand amour qui unissait Jésus à Lazare. Les Juifs dirent alors « Voyez comme il l'aimait ». Nous aussi, chers amis, nous pouvons et même nous devons en un sens pleurer nos défunts. Peut-être faut-il demander au Seigneur la grâce de parvenir à la profondeur des pleurs de Jésus. Autrement dit, Jésus se lamente du pouvoir d'une mort qui, on vient de le voir, a été introduite par le péché. La mort de Jésus, c'est bien sûr, la mort de Lazare, c'est bien évidemment une grande perte pour Jésus parce qu'il perd un ami très cher, mais aussi parce qu'il voit, il expérimente de très près ce pouvoir de la mort. C'était un premier point, donc, la solitude que nous aurons tous à affronter face au mystère de notre mort. Ça, je crois que ça ne sert à rien de se voiler la face. On peut comprendre, donc, qu'il y ait eu, historiquement, une grande insistance sur la dimension personnelle, individuelle, de la question liée au salut. C'est la raison aussi pour laquelle on prend très au sérieux notre responsabilité personnelle. Vous savez que ça appartient déjà aux strates les plus récentes de l'Ancien Testament, et c'est développé par le Christ, c'est-à-dire que chacun est responsable de ses actes. Voilà, et donc notre vie terrestre est à prendre au sérieux parce qu'elle nous prépare à la rencontre avec le Christ. Le petit souci dans cette perspective, si on insiste que sur ce point-là, c'est finalement de faire de notre histoire une histoire uniquement personnelle, en oubliant la dimension sociale ou communautaire. Et j'en viens à mon deuxième point. Je voudrais aborder cette dimension sociale par un biais complètement atypique, qui n'est vraiment pas au cœur de la foi, mais qui dit quelque chose de notre foi. C'est la question du soin que, depuis l'Antiquité, on a apporté au corps des défunts. Ça peut sembler anecdotique de se dire, ben écoutez, vous nous parlez en principe de notre foi, et là, vous venez nous parler de questions liées au cadavre, quelle est l'importance? Eh bien, on va le voir. En effet, dans l'Église primitive, sous l'influence de la foi en la résurrection, on vit surgir très rapidement des coutumes chrétiennes pour la sépulture des fidèles, donc des gens qui avaient la foi. Vous avez tous visité, je pense, des cités de l'Antiquité, ou si vous n'avez pas visité, en tout cas vous avez lu sur ces cités-là, il y avait assez communément des nécropoles, des cités des morts. Les chrétiens ont abandonné le terme de nécropole. Et ils ont employé un autre terme chrétien, le terme de cimetière, qui veut dire, en grec, qui renvoie au mystère du dortoir, l'endroit où l'on dort. Le premier qui en est témoin, c'est Tertullien. Donc nous sommes au IIe siècle, vous voyez, c'est assez ancien. Et le sens est d'autant plus clair si l'on se réfère à une épitaphe que l'on a retrouvée à Salonique. Cette épitaphe dit la chose suivante: dortoir jusqu'à la résurrection. Dortoir jusqu'à la résurrection. Donc, dans la toute première communauté chrétienne, on avait conscience que les corps qui étaient déposés là attendaient la résurrection. C'est une affirmation très forte, reprise par des gens comme Saint Jean Chrysostome. Et en milieu latin, il y a un terme que les archéologues ont retrouvé, qui est le terme de depositio. La déposition, que l'on ne doit pas confondre avec la donatio, avec la donation. La depositio veut dire par là, c'est un terme d'origine juridique, pas du tout chrétien dans son première étymologie, veut dire par là que, par opposition à la donation qui est faite une fois pour toutes, le corps est déposé avec un certain droit de reprise. Bien sûr, pour les chrétiens, celui qui avait un droit sur ce corps, c'était le Christ. On va le voir dans le lien qui existe entre notre résurrection et la sienne. Donc, les toutes premières communautés chrétiennes ont insisté pour dire que Jésus, mort et ressuscité, conservait sur les cadavres qui étaient déposés dans les tombeaux le droit de les reprendre pour leur redonner vie. Pour leur redonner vie. Dès lors, on ne sait pas du tout, on n'a pas laissé faire tout et n'importe quoi sur ces cadavres. Très tôt, on a apporté des soins. Il y a même un petit ouvrage de Saint-Augustin qui porte exclusivement sur cette question-là, non pas sur les modalités pratiques, mais sur le sens profond. Le soin apporté au corps des défunts est un devoir d'humanité. Je cite Saint-Augustin. « Quant aux soins de la sépulture du corps, quel qu'il soit, ils ne sont d'aucun secours pour le salut. Mais c'est un devoir d'humanité fondé sur ce sentiment en vertu duquel personne ne hait sa propre chair. Aussi doit-on, autant qu'on le peut, prendre ce soin de la chair de nos semblables lorsqu'ils l'ont délaissée. Ceux qui ne croient pas à la résurrection de la chair ne manquent pas à ce devoir. À plus forte raison, les fidèles, ceux qui ont la foi, doivent-ils le remplir à l'égard d'un corps mort, il est vrai, mais destiné à la résurrection et à une durée éternelle. N'attesteront-ils pas ainsi, en outre, cette foi à la résurrection ? Fin de la citation. Vous le voyez, saint Augustin en fait déjà un devoir d'humanité. Autrement dit, la mort de mon prochain ne me laisse pas indifférent. Je suis lié à lui. Et il dit bien, même pour les gens qui n'ont pas la foi, il y a cette conviction qu'on n'est pas isolé les uns des autres. On est liés les uns aux autres. On appartient à la même humanité. Et donc, a fortiori, pour nous qui sommes chrétiens et qui avons foi en la résurrection, a fortiori, devons-nous prendre soin du corps de nos proches, de nos défunts. Mentalité qui va se manifester, vous le savez, dans la manière chrétienne d'enterrer. L'Antiquité pratiquait fréquemment la crémation, pour différentes raisons, entre autres hygiéniques. Face à la crémation, les chrétiens ont pratiqué l'inhumation, et ce, par respect pour le corps qui attend la résurrection. Ce choix des chrétiens fut dicté d'abord par la façon dont Jésus lui-même avait été enterré. Jésus a été mis au tombeau. Qui plus est, les chrétiens ont voulu aussi s'opposer à une mentalité néoplatonicienne qui voulait laisser croire que plus vite le corps était détruit, plus vite l'âme était libérée de ce corps. Vous savez cette logique d'un corps qui est comme une prison, comme un tombeau pour l'âme. Donc plus vite le corps est détruit, plus vite l'âme est libérée. C'est pour, à la fois pour s'opposer au néoplatonisme et pour perpétuer les gestes qui avaient été posés à l'égard du corps du Christ que les chrétiens se sont mis à inhumer leurs défunts. Le chrétien ne détruit pas le corps pour atteindre plus rapidement le salut. Alors, vous savez que cette question a retrouvé une certaine actualité aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens qui demandent à être incinérés. Pendant un temps, en particulier au XIXe et au XXe siècle, au début du XXe siècle, ce fut réprouvé par l'Église. Alors, il faut faire attention, on pourrait se dire, mais ça veut dire que la discipline a changé, etc. Quand les décisions ecclésiales ont été prises sur ce sujet, c'est qu'il y avait un certain nombre d'écrits qui aujourd'hui sont tombés en désuétude, et c'est tant mieux, qui prônaient une affirmation d'un certain matérialisme contre la vision chrétienne du corps. Et l'Église, donc, a réagi avec une certaine force en demandant, par exemple, c'était dans le code de 1917, il y a deux codes de droit canonique, il y a eu celui de 17, le premier code, et puis l'actuel, le 83, le code de 17 interdisait les funérailles ecclésiastiques pour qui demandait la crémation. Mais on était en 1917, hein, dans une logique qui était vraiment une logique d'affrontement. Aujourd'hui, tout ceci a bien changé, et c'est heureux, hein. La position de l'Église, vous la connaissez. Je vais lire un extrait du code pour ceux qui voudraient vérifier. C'est le canon 1176. L'Église, dit le code droit canonique, recommande vivement que soit conservée la pieuse coutume d'ensevelir les corps des défunts. La pieuse coutume, c'est une allusion au fait que le Christ lui-même a été inhumé. Cependant, elle n'interdit pas l'incinération. D'ailleurs, dans l'histoire, il y a toujours eu des exceptions pour une bonne et simple raison, c'était les épidémies. Et là, l'Église recommandait en pareil cas qu'on brûle les corps. Mais on n'était pas envoyé dans une logique d'affrontement avec le néoplatonisme ou autre. Donc, cependant, elle n'interdit pas l'incinération, à moins, il y a une clause, à moins que celle-ci, l'incinération, n'ait été choisie pour des raisons contraires à la doctrine chrétienne. Donc, concrètement, quelqu'un qui s'opposerait à la résurrection. Voilà, qui dirait, ben, moi, je n'y crois pas. Bon. Donc, il faut vérifier, parce qu'entre ce que dit quelqu'un et puis ce que vraiment il croit, il y a un écart. Hein. Mais, voilà, quelqu'un qui s'opposerait vraiment à la résurrection, qui est au cœur de notre foi, et qui ferait incinérer pour cela, ça poserait quand même problème. Voilà. Pour nous, chrétiens, il est très important de voir que s'il y a des crémations, elles ne doivent jamais, jamais s'opposer d'une quelconque manière à notre foi en la résurrection de la chair, qui est centrale. Le Christ est ressuscité des morts, on va le voir. Donc, voyez, par ce soin apporté au corps, par ce soin, par ce devoir d'humanité, mais qui a aussi été pratiqué très tôt par les chrétiens, nous avons le signe que la question de notre mort, qui pouvait sembler d'emblée une question strictement privée, individuelle, et qui tend à le devenir de plus en plus aujourd'hui. Vous savez tous quand même ce qui se passe dans un certain nombre de maisons de retraite, où on cache la mort, où on voile la mort, etc. Bon, c'est pas récent, hein. Vous relisez Philippe Ariès, vous relisez... Voilà, la question de la mort est occultée à bien des égards. On privatise de plus en plus la mort en oubliant cette dimension sociale de la mort. Nos villes poussent à la privatisation de la mort. À tort, bien évidemment. On appartient à une communauté humaine, voulue par Dieu, aimée de Dieu, et pour laquelle Dieu a donné sa vie en son Fils. Voilà, donc on a fait un second pas, un petit détour un peu archéologique, mais me semble-t-il pas inintéressant. Je vais rentrer dans un propos plus théologique avec le troisième point. Quel lien entre la résurrection de Jésus, survenue il y a 2000 ans environ, et la nôtre à la fin des temps? Quel lien entre la résurrection de Jésus et la nôtre? Chaque jour, dans l'Eucharistie, chaque dimanche en particulier, au plus haut point, la fête de Pâques, il y a au centre de notre foi, au centre du Nouveau Testament, il y a la résurrection de Jésus, la résurrection du Christ. Alors vous vous rappelez tous cette annonce très solennelle qu'en fait saint Paul aux Corinthiens. C'est au chapitre 15, début du chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens. « Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et la prédication des apôtres et notre foi chrétienne, même si elle est parfois un peu chancelante, dépendent complètement de cette résurrection de Jésus. Au point que saint Paul écrit un peu plus loin, c'est toujours dans le chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, « Si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi votre foi. » Autrement dit, on arrête tout et la conférence est terminée. Si c'est que la conférence, c'est pas bien grave. Mais c'est toute notre vie, c'est le sens même de notre vie qui change. Voilà. Donc là, on est au cœur. Cet événement, la résurrection de Jésus, et ceci est très important pour le propos qui nous occupe, n'est pas un événement qui serait replié sur lui-même. Ce n'est pas un événement qui est replié sur lui-même, comme parfois nous pouvons l'être nous. Non seulement Jésus est ressuscité, mais il est en sa personne, comme dit saint Jean, la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Saint Paul dira, c'est toujours le chapitre 15, la première lettre aux Corinthiens, « Le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. » Prémisse de ceux qui se sont endormis. Ce terme de prémisse suggère que nous avons affaire à un processus qui a commencé et qui est destiné à rejoindre toute l'humanité. Vous savez, comme un plan d'eau, très calme, laisse tomber une pierre et une onde, des ondes se diffusent. Tout le monde va être rejoint. Il y a eu un événement, une fois pour toutes, central, prémisse, et tout le monde va être rejoint. Tout le monde, pas simplement moi, tout le monde. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le principe premier-né d'entre les morts, dit saint Paul aux Colossiens, chapitre 1. Et ce lien entre la résurrection de Jésus et notre résurrection explique que dans le credo de Nicée-Constantinople, nous professions que Jésus ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Puis, un peu plus loin, nous disons que nous attendons la résurrection des morts. Voilà deux événements, deux affirmations dont la première fonde la seconde. La résurrection de Jésus fonde notre résurrection à venir. Alors, ce lien entre la résurrection de Jésus et la nôtre est un lien qui est double. D'abord, la résurrection de Jésus est la cause de notre résurrection à venir. Toujours saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15. La mort étant venue par un homme, Adam, c'est aussi par un homme, le Christ, que vient la résurrection des morts. Il y a une cause, il y a un lien de cause à effet entre la résurrection de Jésus et la nôtre. Deuxième lien, notre résurrection glorieuse. On se dit, qu'est-ce que ce peut être ? Eh bien, notre résurrection glorieuse se fera à l'image de la résurrection du Christ. C'est toujours saint Paul, première lettre aux Corinthiens, chapitre 15. Je pense que pour le thème de cette université d'été, c'est un chapitre qu'il faut bien lire. De même, dit saint Paul, que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Adam terrestre, Adam céleste, Adam terrestre, voilà, et Adam céleste, le Christ. La résurrection du Christ est donc non seulement la cause, mais l'exemplaire de notre résurrection à venir. On peut dire que notre résurrection est l'extension à toute l'humanité de la résurrection du Christ. Autrement dit, si je veux essayer d'approcher le mystère de notre résurrection, qui va toucher toute l'humanité, il faut que je me tourne vers la résurrection du Christ, essayer de percevoir, mieux comprendre ce qui va se passer à la fin des temps. Mais ce lien entre la résurrection de Jésus et notre résurrection serait incompréhensible si on ne considère pas d'abord la résurrection sacramentelle qui survient au jour du baptême, car nous sommes déjà ressuscités. Il y a là un mystère de mort et de vie. Ignorez-vous que baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle, etc. etc. Romains 6, c'est chapitre 6 d'être aux Romains. Ce mystère du baptême que nous avons reçu est un mystère de nouvelle naissance, comme l'a expliqué Jésus à Nicodème en Jean 3. Il s'agit vraiment de renaître, de ressusciter à une vie nouvelle. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est un verset, Jean 3, 5, qui a été très souvent repris dans l'Antiquité, très très souvent, et dont nous trouvons beaucoup de traces, en particulier si vous allez à Rome, si vous allez à ce lieu merveilleux, mais trop peu connu, qui est le baptistère du Latran. Vous savez, c'était là qu'avaient lieu les baptêmes dans la nuit pascale. Voilà, il y a un texte très célèbre, sans doute dû à celui qui plus tard allait devenir le pape Saint Léon le Grand, voilà, qui dit « Par l'eau L'Église mère donne la lumière au nouveau-né dans un enfantement virginal qui conçoit par inspiration de Dieu. Voilà. L'Esprit Saint nous est donné, nous sommes enfantés à une vie nouvelle, mais nous le sommes dans l'Église et par l'Église. Encore une fois, nous ne sommes pas seuls. Ce n'est pas une question purement personnelle, purement individuelle. Vous voyez, je fais exprès de parler là du lien entre la résurrection de Jésus et notre résurrection de toute l'humanité et dans le mystère du baptême de tous les chrétiens. De la sorte, par le baptême, comme dit saint Paul, enseveli avec lui lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscité avec lui parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Autrement dit, il y a pour chacun de nous une incorporation vitale au Christ ressuscité. Vraiment, ceci est essentiel. Et nous le savons bien, et le rituel du baptême aujourd'hui nous le rappelle, par exemple, quand nous accueillons à l'entrée de l'Église, ou de différentes manières, il y a plusieurs possibilités, le baptême nous introduit dans l'Église avec un grand E. Par le baptême, nous devenons membres du Christ et du corps de l'Église. Encore une fois, ce n'est pas qu'une question personnelle entre un petit bébé et le Seigneur. Bien sûr que c'est aussi une question personnelle, mais ce n'est pas que cela. Et cette insertion dans le mystère de l'Église appelle, ou appellera, si l'enfant est encore petit, une réponse tout au long de notre vie, et c'est ce qui nous invite à prendre très au sérieux notre vie. Vous relirez sur le sujet Lumen Gentium 14. Lumen Gentium 14 rappelle quelque chose de très important, c'est que on peut être incorporé à l'Église par le baptême et n'y être que de corps et non pas de cœur, pour reprendre l'expression de saint Augustin que cite Lumen Gentium. Autrement dit, nous n'avons pas de gloire à tirer de cela, il ne faut pas se dire meilleur que les autres, mais et vraiment, c'est dans le texte de Lumen Gentium 14, il y a un renvoi en note à Luc 12, à qui on aura beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Donc non seulement nous ne devons pas tirer orgueil, mais surtout nous devons faire fructifier les dons de notre baptême. On n'est pas meilleur, ça ne nous assure pas le salut en quoi que ce soit, c'est vraiment le salut qui nous est donné, mais ça appelle la réponse libre et aimante de nos personnes. En résumé de ce troisième point, la plus profonde expression de notre espérance, nous la trouvons dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4. Vous savez que c'est le premier écrit du Nouveau Testament, la première lettre aux Thessaloniciens. Et là, chapitre 4, c'est celui qui concerne les questions qui nous occupent là, pendant ces deux jours. « Les morts en Christ ressusciteront, dit saint Paul. » C'est une affirmation qui sera toujours scandaleuse. Toujours scandaleuse. Hein ? Elle l'était déjà à l'époque de saint Paul. Vous vous rappelez son petit passage à Athènes. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, acte 17, les uns se moquèrent. Les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Des pères d'Église comme Origène, comme saint Grégoire le Grand, comme saint Augustin, Origène dit que ça a toujours été une situation difficile. Saint Grégoire le Grand, très grand saint, dit « J'ai connu des doutes par rapport au mystère de la résurrection. » Tertullien dit « Moi, avant de me convertir, je me suis beaucoup moqué des chrétiens. » Saint Augustin dit « C'est difficile, c'est un mystère difficile que celui de la résurrection. » Certes, il y a eu des attaques, il y a eu des doutes, il y a eu des railleries, mais il y a toujours eu des chrétiens qui n'ont pas répondu par la violence, mais qui sont allés jusqu'au bout du témoignage. Ce sont les martyrs qui ont préféré donner leur vie pour le Christ. Il y en a encore aujourd'hui, hélas, on l'entend. Plutôt que de renier leur foi en la résurrection. Et nous pouvons demander par leur intercession la force vraiment de témoigner avec humilité, mais avec force de notre foi en la résurrection. J'en viens au quatrième point. On progresse sur le sens ecclésial de la résurrection. Comme le dit saint Jean au chapitre 6, au dernier jour, c'est l'expression de saint Jean, au dernier jour, ça veut dire à la parousie, au retour du Christ, les hommes ressusciteront glorieusement. Dès lors, ils obtiendront la communion complète avec le Christ ressuscité. Le Christ est déjà ressuscité et la communion complète, nous la recevrons au dernier jour. C'est alors que notre communion avec le Christ se déploiera pleinement dans la plénitude de notre réalité existentielle. Ceci est très important, très très important. Notre résurrection va finalement nous permettre d'être en communion très profonde avec le Christ. Et en même temps, nous croyons, nous professons que quelque chose de réel, de très fort, est déjà donné au moment de notre mort. Je rappelle ici 2 Corinthiens 4, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et nous placera près de lui avec vous. Et 1 Thessaloniciens 4, après quoi nous, les vivants, nous qui serons encore là, au moment du retour du Christ, nous serons réunis à eux, ceux qui sont déjà morts, et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Alors, c'est une image. Hein. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Cette phrase est d'une force incroyable. Nous serons avec le Seigneur toujours. Vous avez, avec le Seigneur, centralité du Christ ressuscité. Toujours, perpétuellement. Nous serons, c'est un pluriel. Nous serons, c'est pas je serai, nous serons. Le nombre de pluriels dans les citations que j'ai données ce matin doit nous marquer sur cette dimension sociale. Nous serons avec le Seigneur toujours. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement d'être avec le Christ, ce qui est bien sûr le plus important, mais aussi d'être avec les autres. Et d'être avec les autres en lui. D'être avec les autres en lui. Il y a un texte qui est peu connu, mais qui sert beaucoup pour illustrer ces matières. C'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6. On leur donna à chacun une robe blanche en leur disant de patienter encore un peu, le temps que fussent au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Vous relirez le chapitre 6 de l'Apocalypse. Vous verrez qu'on y parle du cri des âmes des martyrs qui attendent, qui patientent. Et ce que je viens de lire, c'est la réponse qui leur est faite. La résurrection finale, au moment de la parousie du Christ, aura lieu quand tous les compagnons de service et les frères sera au complet. Derrière le genre littéraire apocalyptique, il y a une affirmation de foi très importante. L'âme de la personne juste, même si elle est imparfaitement juste sur cette terre, au moment de la mort, vécue dans une certaine solitude indéniable, cette âme parvient déjà, au moment de la mort, à la pleine communion avec le Seigneur. C'est entendu, et ce point est essentiel. Il y a eu dans l'histoire, il y a eu des débats, se dire, est-ce qu'au moment de la mort, nous avons déjà la pleine communion avec Dieu ? Oui. Mais, comme l'a très justement signalé le père de Lubac dans cet ouvrage, vous voyez, ils sont avant la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est pas récent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont encore bien reçus par tout le monde. Mais comme l'a justement signalé le père de Lubac, cette pleine communion est vraiment parfaitement réalisée lorsque on dépasse une double séparation, à savoir lorsque le corps ressuscite, et le corps ressuscite lors de la parousie, hein, voilà, au retour du Christ, et donc séparation, on retrouve le corps, mais aussi, insiste le père de Lubac, lorsque le corps mystique, le corps ecclésial tout entier, se trouve enfin réuni. Quand est au complet le nombre des compagnons de service et des frères, comme dit le livre de l'Apocalypse. C'est la raison pour laquelle Origène, un très très grand auteur de l'Antiquité, pouvait dire dans son commentaire sur Saint Jean, « Quand viendra la résurrection du véritable et total corps du Christ, alors les membres du Christ, que nous sommes tous, se rejoindront jointure à jointure, chacun trouvant sa place. C'est alors que la multitude des membres sera enfin en plénitude et en toute conscience un seul corps mystique, un seul corps ecclésial du Christ. Ce point, chers amis, est très important. Très important. Bien sûr que nous sommes des êtres singuliers, uniques aux yeux de Dieu et en principe aux yeux des autres. Mais si nous sommes liés à celui qui est notre Créateur par une relation constante et qui est notre Sauveur, qui se donne à nous comme notre Sauveur, nous le sommes tout autant les uns aux autres. Les uns aux autres. Dès lors, cette question du salut, de notre résurrection, de notre communion avec Dieu, communion définitive avec Dieu, doit assumer cette dimension à la fois de lien à Dieu et de lien aux autres. Je ne nie pas, attention en disant cela, toute l'importance de la littérature spirituelle et morale, et qui est très importante, sur le souci que l'on doit avoir de son âme. C'est évident, je suis responsable de mes actes, je dois prendre très au sérieux ma vie, mais être responsable de mes actes, ça ne m'isole pas, ça ne fait pas de moi une île. Bien sûr que Dieu seul connaît mon cœur et mes reins, mais ça ne m'isole pas. Nous sommes liés les uns aux autres. Alors, bien sûr, je dois avoir le souci constant des autres, mais bien comprendre aussi que dans l'éternité bienheureuse, nous serons justement cette cité harmonieuse, ou pour reprendre les mots d'Origène, les membres du Christ se rejoindront jointure à jointure, ça sera harmonieux, il n'y aura pas de fausses notes, parce qu'on a repris aussi parfois l'image de l'orchestre symphonique. Chacun trouvant sa place, et chacun étant heureux de sa place. Voilà, c'est un point qui est essentiel pour notre foi. Alors, comme l'heure tourne, je vais terminer avec une citation du père de Lubac, toujours dans le même ouvrage, Catholicisme. Je cite, dans cette édition, l'édition actuelle de Catholicisme, page 92, toujours le même chapitre sur la vie éternelle, « Les premières générations chrétiennes avaient un sentiment très vif de cette solidarité de tous les individus et des diverses générations dans la marche vers un même salut. » C'est quelqu'un qui connaît très bien les premières générations chrétiennes. « Si un saint Paul, dit le père de Lubac, frémissait de joie à la pensée que la prochaine dissolution de son corps de chair lui permettrait d'aller bientôt rejoindre le Christ, ce sentiment personnel s'épanouissait sur le terrain d'une foi qu'il avait rendue possible en lui ouvrant de bien plus vastes perspectives. Le terme où Paul voyait s'acheminer l'histoire humaine n'était rien moins que la délivrance de toute la création, la consommation de toute chose dans l'unité du corps du Christ enfin achevé. L'espoir qu'il mettait au cœur des hommes qu'il gagnait au Christ était, on peut bien le dire, un espoir cosmique. On y reviendra avec le texte qu'on va travailler ensuite. C'était donc, pour nous en tenir ici encore aux limites du genre humain, c'était donc, écoutez bien, l'espoir en un salut social. L'espoir en un salut social. Et le père de Lubac a cette formule très forte. C'était l'espoir du salut de la communauté, condition du salut des individus. Je ne suis pas certain que ce soit aujourd'hui l'opinion la plus répandue. je cite, c'est pas n'importe qui le père Lubac, qui est quand même devenu cardinal, voilà, il a eu parfois quelques épreuves à traverser, mais c'est vraiment un très très grand théologien. C'était l'espoir du salut de la communauté, condition du salut des individus. Voilà. C'est très fort, ça. Très souvent, on inverse la proposition. On va dire, ben voilà, on espère bien que chacun sera sauvé et qu'on va tous se retrouver. Là, c'est de dire non. Là, au cœur de l'affirmation de la foi chrétienne, il y a ce souci-là des premières communautés, déjà chez saint Paul, hein, le salut de la communauté comme condition du salut des individus. La persuasion où l'on était naturellement que ce salut collectif et définitif ne devait point tarder, la croyance en une fin rapide de ce monde présent, facilitait sans doute une telle inclusion de l'espoir personnel dans la grande espérance commune. Une telle inclusion de l'espoir personnel dans la grande espérance commune. Voilà. Donc, voilà quelques mots que je voulais vous dire. Le reste, on va le garder pour la discussion à venir. On n'en a pas d'autres.